En fait, nous, on meurt pas. Tu peux envoyer la bombe nucléaire de 4 milliards, on l'esquive. Il va dire, mais il est fou.
La Belle Vie est une entreprise de livraison de courses à domicile en Île-de-France. Créée en 2015, elle propose plus de 30 000 produits ultra frais et de qualité. Sur leur site, on peut retrouver des produits bio, du primeur, du boucher, associés à des recettes, avec de nouveaux producteurs et artisans proposés chaque semaine. Aujourd'hui, Théo rencontre Paul Lee, cofondateur et co-CEO de la marque, qui va nous raconter leur création, leur scaling et l'évolution du marché et ses consommateurs, ainsi que leur reprise de l'entreprise Frishti.
Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Je suis Théo Lyon, le fondateur et CEO de Koudak, l'agence ads des e-commerçants, start-up et retailers qui veulent se digitaliser. Avec mon équipe de 50 personnes, on a eu l'occasion de bosser sur un certain nombre de problématiques différentes dans notre portefeuille client. On a des références assez variées, comme Gérard Darrel, Fursac, Delsey, LegalStart ou Beanstalk, et bien d'autres. Et une fois par semaine, je reçois certains d'entre eux, clients ou pas, et je les cuisine sur leur stratégie de croissance online. On essaie d'aller le plus profond possible pour que vous puissiez en ressortir avec du concret, au point d'avoir envie de mettre en pause cet épisode pour aller bosser. Bon, évidemment, ne le faites pas. La seule bonne raison de quitter un épisode des Bruts e-commerce, c'est pour aller 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix, parce que ça me permet d'être plus crédible quand je demande à des belles marques de m'accorder du temps. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité du jour. Bisous les petits potes. Bon Paul, c'est un plaisir de te recevoir dans les Bruts e-commerce.
Bah, ça me fait plaisir aussi d'avoir traversé l'île de France.
C'est toujours ce que les gens disent quand ils arrivent, ils sont contents d'arriver.
Ouais.
Parce que ça, ouais, depuis Paris, ça fait une petite heure pour venir.
Petite heure, je suis à Paris Est, ouais. Dans le 12e actuellement. Je suis pas bien, mais écoute, comme je me suis décommandé last minute la dernière fois, j'allais pas faire une deuxième fois, mais si tu avais commencé ton accroche par « Hey, je te fais un podcast à Versailles », je t'en
dis « Ah, c'est toujours !» D'abord, tu présentes la value et ensuite, il y a la petite astérisque. Mais tu avais une très bonne excuse la dernière fois de ne pas être là, parce que c'était une période assez active du coup pour, pour La Belle Vie. Tout le monde l'a vu dans les médias, donc la reprise de Frishti qui a eu lieu il y a quelques semaines, encore.
Exactement.
On peut dire. Donc c'est une des parties, enfin une des milestones importants de l'histoire de La Belle Vie, qu'on va essayer de retracer ensemble aujourd'hui avec un angle un peu croissance. Donc le but, ça va être d'isoler un petit peu des phases de croissance, très simplement. Donc le début, tout ce qui va être product market fit, vos différentes levées de fonds, les galères que vous avez eues, la phase quick commerce aussi récente qui s'est terminée du coup par la reprise de Frishti. Retracer ça ensemble avec toi. Mais d'abord, je vais quand même être poli et te laisser te présenter. Raconter comment est-ce que La Belle Vie a été créée, cette phase de genèse au démarrage.
Donc je suis Paul Lee, je suis le cofondateur de La Belle Vie, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants et je suis marié depuis un an.
Bravo.
Voilà, merci. On a créé La Belle Vie en 2015 avec mon associé Alban Vincop. C'était son idée. En fait, Alban, c'était mon ancien patron il y a une quinzaine d'années. On a toujours, je pense, eu ce fit intellectuel et de mindset sur la création de choses. Et après ma première boîte, il a essayé de me tirer en disant « Viens, on crée quelque chose ensemble. » Moi, j'ai toujours voulu créer quelque chose avec lui. Et il avait cette idée à l'époque, en 2015, où c'était l'explosion de la food tech aux États-Unis, de créer un site de recettes. Et tu cliques sur la recette et tu te fais livrer tous les ingrédients dans l'heure. Voilà. Ça, c'est l'idée initiale de La Belle Vie. On y est retourné quelques années plus tard. Mais ça, c'est le déclencheur sur « Ah ouais, c'est une bonne idée, on va lancer une boîte ensemble. » Évidemment, comme dans toutes les boîtes, ça ne se passe pas forcément comme on a prévu. Mais en tout cas, la bonne idée, le marché qu'on sentait plutôt cool. Et on a lancé la création de boîte en janvier 2015. Et en juin 2015, on fait les premières livraisons de La Belle Vie. Entre-temps, on avait lancé un site de petits déjeuners et d'apéro qui s'appelle Miamtag. C'était pour nous entraîner à faire du e-commerce et la livraison de produits frais, les fournisseurs, etc. Et donc, du coup, entre la création du Cabis et la première livraison, il y a eu 6 mois. Voilà.
Ok. Vous êtes lancé dans une phase où tu disais s'exploser aux US. En France, forcément, vous n'avez pas été les seuls à voir un petit peu que le marché s'excitait là-dessus. Tu me décrivais l'environnement concurrentiel juste avant qu'on allume les caméras. Il y avait une liste longue comme le bras de personnes qui s'étaient lancées.
En fait, déjà dans la food en général, je pense que c'est le sec. Je ne dis pas food tech, mais dans la food en général, je pense que déjà c'est la verticale de la création d'entreprise la plus dynamique. Quoi. Enfin, franchement.
Tu l'expliques ça? Pourquoi?
Bah tout. En fait, déjà, on est en France, on a un rapport avec la bouffe qui est assez fort. On a tous des particularités en termes de food. Il y en a qui ne mangent pas de viande, d'autres qui mangent parfois de la viande, parfois un peu, d'autres qui mangent des fruits, d'autres qui découvrent un fruit qui peut, et ce fruit-là, on peut en faire des steaks. C'est assez fou. Donc, il y a un pays où l'entrepreneuriat est de plus en plus émancipé, les jeunes de plus en plus ont envie de changer le monde. Et la food, c'est peut-être quelque chose qui éveille le plus de choses en nous le plus régulièrement. Voilà, peut-être pour ça qu'on crée des boîtes de food aussi nombreuses en France. En tout cas, nous, on arrive en 2015 avec l'explosion de la food tech aux États-Unis, Blue Apron, Spoon Rocket, etc., etc., HelloFresh. Voilà, c'était vraiment l'explosion de Muncheries en 2015. Et en France, bah, évidemment, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Et en France, bah, en 2015-2016, t'as Ch'ti, la plus connue, Food Cherry, Pop Chef, Take It Easy, l'arrivée de Deliveroo qui a 2-3 ans. Ben voilà, il y en avait, franchement, à un moment donné, je les ai comptés, on était 15, quoi, sur le marché français. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a un marché. Et tant mieux. Maintenant, quand on se lance avec autant de concurrence et de la concurrence qui va aussi se créer tout au long des années, ben voilà, il faut être un vrai entrepreneur. Hein.
Sur quoi est-ce que s'est livrée la première bataille? Parce que vous n'aviez pas levé de fonds au tout début, on est d'accord?
En fait, on a déjà commencé avec pas mal de fonds de mon associé Alban, puisqu'il avait il a eu l'idée, mais il avait aussi les fonds, puisqu'il avait vendu sa première start-up auparavant, quelques années auparavant. Donc, et il était jeune, hein, on a commencé il y a 9 ans, on était à peine trentenaire. Lui était un peu trop jeune pour prendre sa retraite, et il pensait à juste titre. Pouvait faire quelque chose d'encore plus grand. Et voilà, il a décidé que c'était avec moi, et moi j'ai décidé que c'était avec lui, et on s'est lancé. Donc on a commencé avec ses fonds, mais on n'a pas levé de fonds avant 2018.
Ok. Et donc comment vous avez combattu en fait, ces gens-là qui, en face de vous, en fait, eux étaient peut-être mieux...
Bah, y a eu beaucoup de grosses levées de fonds, et très rapidement, et c'était le début d'espèce de bull run des levées de fonds. Donc... il y a eu tout l'épisode des roquettes Internet, voilà, qui sont arrivées aussi sur la delivery. Just Eat, qui est arrivé très fort. Ch'ti, qui ont levé, je pense, en 2017, ils avaient déjà levé 40 millions d'euros, ce qui était énorme à l'époque. Voilà. Mais comment est-ce qu'on a fait? Écoute, on s'est concentré sur notre produit, et je pense que ça, peu importe ta taille, le plus important, c'est d'avoir la meilleure expérience et de construire le meilleur produit. Voilà. Derrière, ce qui va faire le scale en fait, ce qui va faire la vraie différence, c'est la qualité de ton produit. Et ça, j'y crois encore plus aujourd'hui. On n'a jamais été les plus riches, mais je suis sûr qu'en termes de besoins, on couvrait le maximum de besoins. Et en termes de équation économique, on avait la meilleure équation économique. Évidemment, on n'avait pas autant de clients parce qu'on n'avait pas pu acheter des clients avec de l'acquisition, mais nos clients étaient hyper fidèles. Donc quand tu te mets ça, tu te dis, s'il y a quelqu'un qui vient arroser la belle vie avec un peu de cash, on va pouvoir acheter un peu de clients et rattraper notre retard. Et c'est ce qui s'est passé en 2018 avec nos premiers seeds. Voilà.
Comment est-ce que concrètement dans le produit, vous êtes différencié? Tu dis que vous avez construit le meilleur produit.
En 2015, tout le monde commence avec de la livraison de plats. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut faire sauter ta cuisine. Tu ne cuisines plus. Tu cliques, tu te fais livrer, et là, on livre ton plat, parfois froid, enfin souvent froid, et parfois un peu chaud. Il y a des boîtes, dont une qui s'appelait 62 degrés, qui livraient ton plat chaud. C'est ouf. Tu vois, tu cliques, tu avais un scooter qui traînait dans ton quartier, d'accord? En 10 minutes, il livrait chez toi un plat chaud. C'est une bonne idée, tu vois. Mais en termes opérationnels et économiques, c'est un gouffre. Mais comme ça peut être une bonne idée. Donc, tu te faisais livrer ton plat. Et nous aussi, on a commencé par les plats, en tout cas des apéros et des petits déjeuners. Et on s'est vite aperçu d'une chose, c'est que déjà, les plats, il fallait les cuisiner, et c'était un métier. Il fallait les stocker, et c'est un métier. Il fallait les livrer, et c'est un métier. Donc, en fait, tu as plein de métiers dans la food tech. Et on ne pouvait pas tout faire. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes économiques, il y a une différence entre livrer 15 euros, d'accord, et plus. Livrer 15 euros quand tu marges à, je sais pas, 30%, il faut payer ton livreur, ton préparateur, ton loyer, machin, etc. Donc, en termes de volume, il faut en faire beaucoup. Pour faire du volume, il faut acheter beaucoup de clients. Pour acheter beaucoup de clients, il faut beaucoup de cash. Tout ça, on n'avait pas. Donc, on s'est recentré sur une équation économique et un besoin de la food. Et pour faire ça, on s'est dit, bah, allons faire de la livraison de courses. Parce que les courses, bah, ça reste de la food. On pouvait aussi y mettre les plats préparés qu'on faisait. Mais en tout cas, tout de suite, on n'avait plus un panier de 15 euros. On touchait plutôt les 60 euros. Donc, on s'est concentré sur les courses et sur l'expérience de se faire livrer ses courses rapidement. Et on était les premiers à créer ce besoin-là, en tout cas ce service-là, qui est de la livraison de courses à domicile ultra rapide. On a été les premiers. Voilà. Okay. Il y en a plein qui vont te dire, je peux te dire, c'est nous les premiers.
Ok, cas, parce que ouais. C'est marrant qu'il y ait eu le retour de l'engouement avec le WooCommerce qui arrivait derrière, mais on ne va pas en parler tout de suite. Derrière, en fait, pourquoi est-ce que tous ces acteurs-là ne vous ont pas emboîté le pas? Il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement, qui sont passés sur les
livraisons. Parce que c'est aussi dogmatique. Nous, on n'avait rien promis à qui que ce soit. On n'avait pas d'investisseurs. Nous, on a juste promis de créer une putain de boîte, d'accord? Et il fallait tout faire pour que ça survive le plus longtemps possible. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un peu différent. Et encore aujourd'hui, avec mon associé, on n'est pas dogmatique. Et c'est quelque chose qui est aussi très fort chez lui, c'est qu'il arrive toujours à rebattre les cartes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez salvateur pour nous. La vérité d'aujourd'hui n'est pas de demain. Et voilà. Et ça reste aussi quelque chose d'assez fort aujourd'hui sur la belle vie. Ouais.
Et à quel moment vous êtes rendu compte que vous aviez pris la bonne décision? Parce que, profond, vous aviez. Parce que, pour le moment où tu as fraîchi,
c'est une bonne question. En fait, on s'est jamais dit on a pris la bonne décision. Tu vois, même aujourd'hui, on est les derniers. Tu vois, je sais pas quoi te dire. Hein. Je dis juste qu'on avait une boîte et on a une vision ultra long terme. Et on voulait rester le plus longtemps possible en vie. Voilà. Quand je te dis ça, jamais on se dit, on a eu la meilleure idée que toi. Jamais on s'est dit ça. Voilà.
D'accord, parce que je me dis, ça, peut-être que tu vois, quand tu vois toi qui prends cette direction un peu différente de tous les autres qui continuent à lever de la thune, etc. Et tout, et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que.
Nous, on pouvait pas. On savait pas lever de l'argent. On sait toujours pas. On est assez pragmatique. Hein, voilà. On se dit, mais une livraison, ça coûte cher. En France, tu peux pas payer les gens 1 € de l'heure. Ça n'existe pas, tu vois. Donc, nous, notre seule solution et ce qu'on a trouvé, nous, à l'époque, c'est d'avoir un gros panier moyen. Et pour faire ça, il fallait livrer les courses. Okay. Voilà. C'était notre solution à notre survie, finalement. Voilà.
C'est en quelle année que vous êtes passé sur de la livraison de courses?
Directement en juin 2015.
Ouais. Okay.
Mais on était plutôt sur un assortiment de 2500 produits livrés en une heure.
Okay.
Quand je te dis ça, en fait, on était les pionniers du Q-commerce. Okay. Et puis, petit à petit, on a itéré parce qu'on sait très bien que ce modèle-là, 2500 produits, une heure, les gens aiment bien, mais c'est zéro rentable et c'est impossible d'être rentable. Voilà. Donc, quand ils sont arrivés en voulant faire tout ça, là, tu te dis, putain, j'ai loupé un épisode ou... Voilà. Mais après, tu commences à gratter un petit peu. Tu dis, les gars, ils sont en train de faire ce qu'on a fait en 2015, 2016, puissance 100 km/h dans le mur.
Mais ils vendaient quoi, ça? est-ce qu'ils vendaient un truc différent ou vous dites...
Non, en plus, nous, on vendait des produits frais. On avait beaucoup de fruits et légumes. Tu vois, je te prends un Américain du Q-commerce, je ne dirais pas son nom. Il arrive en France. Ils se sont créés en 2013-2014 avec de la livraison de chicha. Ils arrivent en France pour livrer des courses et découvrent quand même que les Français, ça mange des fruits et légumes, quoi.
Surprise. Mais je veux dire, comment autant d'investisseurs se sont fait duper, entre guillemets? Comment il devait y avoir une vision qui était défendue en mode de ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça va marcher?
Il y a eu un FOMO, c'est-à-dire que tu arrives en 2020, il y a tous les grands retailers qui sont des boîtes qui valent des dizaines de milliards de chiffre d'affaires, et qui font des dizaines de milliards de chiffre d'affaires, donc ont des trésors de guerre, qui sont zéro dans le digital. Zéro. Tu vois? Elles sont toutes en train de se transformer, c'est ce qu'elles disent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai problème, parce qu'il y avait des gens qui ont attendu 4 semaines avant de voir leur course pendant le Covid, quoi. Donc tous les VC ont vu que les grands retailers avaient des problèmes. Donc ils ont misé sur une transformation hyper rapide du digital retail. Et là, t'es les petits malins qui ont fait McKinsey, machin, etc., qui se sont dit, vous avez vu comment ils sont nuls? Moi, j'ai la solution. L'avenir, il est là. Enfin, tu vois, c'est... Et puis, t'investis dans un, puis l'autre, il dit, putain, ça a l'air d'être bien. Et ils font l'expérience. En vrai, en tant que VC, tu te fais livrer tes courses en 20 minutes. Je fais, putain, ouais, c'est génial, moi, je veux ça. En vrai, ils ont raison.
Ouais.
Complètement raison. Mais il faut une équation économique. Et quand un a investi à fond sur le premier, bah, le deuxième dit, bah, moi aussi, chacun est parti chercher son champion. Et ça fait qu'un champion à un moment donné. Qu'un champion, mais en fait, tous se sont dit que le marché allait se réagréger et allait faire un champion, voilà. Et ils espéraient tous avoir misé sur le bon champion, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, tout le monde est mort.
Il y a Flink qui est encore là.
Ils sont encore en France ?
Mais oui, encore en France et qui ont des problèmes pareils avec... en sortant de RJ, ils sont sortis de RJ et maintenant, voilà. Mais c'est beaucoup moins flamboyant.
Ouais.
Le grand gagnant du Q-commerce, c'est Uber Eats. C'est clair et net.
Okay.
C'est-à-dire que toutes les grandes enseignes, ne sachant pas comment faire du Q-commerce et en voyant l'attraction du Q-commerce, quand même, il y a eu beaucoup de clients, ils se sont dit, mais comment faire ? Donc, on va prendre un shortcut. Uber a dit, écoutez, nous, on va mettre des livres devant vos supermarchés, vous préparez les commandes et nous, on les envoie. Quoi. Et on a le trafic qu'il faut. Et aujourd'hui, le Q-commerce est majoritairement fait par Uber Eats. C'est le grand gagnant.
Ok, parce qu'ils avaient le scale qui permettait de...
Ils avaient les livreurs et ils ont un modèle social de livreurs qui leur permettent. Voilà.
D'accord. Alors, bon, ça, on est directement parti sur le Q-commerce, on y reviendra.
Pas de souci.
Moi, j'aimerais parler de cette phase en 2017 qui a été un petit peu dure pour vous.
Oui, bien sûr. Là, en 2015-2016, on était en fonds propres. Voilà. Ouais.
Et le truc prend quand même. Enfin,
le truc prend, ouais. Et évidemment, avec la croissance, l'énergie du quotidien... Et on voit plein de besoins, on se dit putain, mais si on pouvait faire ça, machin, etc. Donc, on va peut-être un peu trop vite, on dépense un petit peu trop vite, et on voit aussi que dans ce métier-là, des écarts de stock, des écarts de planning peuvent être fatales. Ok, t'achètes trop de steak, on fait quoi ? Bah, tout ça, en fait, à la fin, c'est au bas de page. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu dépenses beaucoup d'argent. Et on se retrouve avec plus d'argent, mais avec beaucoup de clients. Et évidemment, quand tu n'as plus d'argent, bah, tu commences à ouvrir chaque ligne de ton relevé et tu fais attention. Et c'est ce qu'on a fait en 2017. On continue à faire de la croissance avec du bouche à oreille. Tous les jours, on se levait pour optimiser chaque coût. Voilà. Et en 2017, fin 2017, on traverse une année assez dure où... On a du mal à payer les fournisseurs, parfois les salaires. Voilà. Parce qu'on n'avait plus d'argent, tout simplement. Mais on avait un business qui continuait à croître et qu'il fallait encore optimiser pour arriver à la rentabilité complète. Et ça, fin 2017, quelques investisseurs l'ont vu sur la place parisienne. Nous, on a fait nos premiers tours de site en 2018.
Okay.
Mais l'année 2017, super dur.
Et c'est-à-dire que dans ces conditions-là, tu lèves dans quelles conditions ? Quand tu n'as plus d'argent, est-ce que ça impacte ta valeur ? Moi, je suis un entrepreneur du bootstrap, donc je ne suis pas un expert des valorisations.
En fait, contrairement à peut-être d'autres entrepreneurs, on a toujours levé, d'accord ? Parce que tu es soit ça, soit la mort. Ou en tout cas, soit ça, soit un choix très dur. OK ? Donc, on a levé, je pense, pour les bonnes raisons. Trop de clients qui rentrent. Un produit qui est disrupteur, d'accord, mais il faut encore le peaufiner. Pour en revenir, toi, tu es un bootstrapper, mais moi, je suis un start-upper, ok. Un start-upper, une start-up, d'accord, notamment dans le consumer, est là pour révolutionner un secteur de marché, une verticale, créer quelque chose qui n'existe pas. Si ça n'existe pas, comment tu fais pour le créer ? Bah, tu passes du temps. Tu embauches des gens pour... peaufiner ce projet-là. Mais à un moment donné, ces gens, il faut les payer. Avant de trouver le bon product market fit et la bonne équation économique, il y a pas mal d'étapes. OK ? Ben pour faire ça, il faut lever des fonds. Mais notre métier à nous, c'est de créer des choses qui n'existent pas. C'est ça, la startup, notamment dans le consumer. Tu vois, et aussi dans le B2B. Hein. Tu prends le logiciel SaaS qui va révolutionner une verticale d'un business. Si tu prends Legal Place, c'est un modèle SaaS. On l'a subventionné au lever de fonds, mais aujourd'hui, c'est 10% des créations d'entreprises en France. Voilà. Avant, pour créer une entreprise, il fallait aller sur Internet, à la chambre de commerce, machin, etc. Maintenant, tu arrives, tu écris 3 trucs sur Legal Place, ton entreprise est créée en 2 jours. Voilà. C'était pas possible avant. OK ? Avant nous, pour faire ses courses, tu faisais quoi? Tu prenais ta voiture, tu allais au drive, ou tu prenais ta voiture, tu allais à l'hypermarché, tu poussais ton caddie. Grâce à nous, tu peux rester chez toi, regarder Netflix pendant 3 heures et quelqu'un qui vient te livrer. Voilà. Ça n'existait pas. Et ça, c'est une start-up. On crée quelque chose qui... Évidemment, je vois les discussions entre les bootstrappers et les start-upers, etc. Et je le vois. Je comprends les bootstrappers qui, parfois, ils disent « Mais putain, mais lui, il a levé, pourquoi ?» Moi, j'ai levé pour sauver ma peau. Voilà. Avec mon associé, on a levé pour nous sauver. Et pour créer quelque chose qui n'existait pas, pour revenir un peu à cette noblesse de la start-up. Dire, on crée quelque chose qui n'existe pas.
Et donc, comment se passe cette année-là? Donc, c'est, vous levez en 2018, donc à partir de 2017-2018, l'année, ben, le temps pour...
Alors, 2017, on survit. Ouais. Voilà, et les fournisseurs, on les paye à 6 mois, quoi, tu vois, comme ça. Il y a des salariés, on les paye les 20 du mois. C'était pas facile, quoi. On avait toujours une obsession de l'expérience client et de servir nos clients avec plus de produits, tu vois. Et on voyait notre panier moyen grossir, tu vois. Donc, ça, c'est une très bonne KPIs. Donc, quand tu achètes un nouveau client, toi qui fais de l'acquisition et du marketing sur Internet, acheter un client, c'est une première étape. Mais il y a une qualité de client. Okay? Nos clients étaient de qualité parce qu'ils arrivaient sur la belle vie. Et en plus de ça, ils y restaient. Et plus ils y restaient, plus ils consommaient. Ça, c'est parfait. Ça, c'est les meilleurs clients. Et nous, on avait ça. Des clients qui sont arrivés parce qu'ils ont commandé un brunch. Ils ont dit, oh, ben, sur le site de la belle vie, on peut aussi faire ses courses. Et puis, ils se font livrer une fois, deux fois, trois fois. Ils ont complètement oublié le Monoprix qui était en bas de chez eux. Mm. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant l'année 2017. Ce type de client est de plus en plus, et voir que ça après. Quand tu es un investisseur en startup, tu comprends que quelque chose est en train de se passer. Il y a des mecs qui peut-être sont en train de révolutionner un marché. Le marché des courses à domicile. Parce que les courses à domicile, quand tu les livres en 2 heures, c'est 12 fois plus vite que plus rapide. Ils livrent en 24 heures. Donc déjà, ils disent, putain, ça c'est cool. Je peux rester, moi je ne sais pas ce que je fais demain, mais en tout cas je sais ce que je fais les 4 prochaines heures, ou les 2 prochaines heures, ou la prochaine heure, en fonction de Paris, ou en Île-de-France. Donc là les investisseurs ont dit, il y a quelque chose qui est sympa, montrez-moi le comportement de vos clients, et là ils se disent, mais vos clients, jamais en fait. Et en plus de ça, ils dépensent de plus en plus. Ça c'est des super comportements de clients, qu'on devrait chercher tout le temps dans les boîtes B2C. Quel comportement de ce client? Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, on fait un petit seed, et ça nous sauve un peu, voilà, on respire un petit peu. Mais c'est que le début de la guerre, quoi. C'est que le début de la guerre.
Ok. C'est quoi la suite de la guerre?
Bah, la guerre, bah, c'est en 2018. Bah, on a fait un peu de croissance, mais on se retrouve out of cash, quoi. Tu vois, ou presque. Donc, investisseurs, c'est business angel. Bon, ils n'ont pas les poches méga profondes, tu vois. Et là, ils disent, bah, vous arrivez quand même à un certain stade où il y a des boîtes qui ont fait une série A, 5-6 millions. Et
5-6 millions, tu veux dire d'argent levé ou de...
D'argent levé. De chiffre d'affaires. Ouais,
chiffre d'affaires, donc, pour faire.
Chiffre d'affaires, à peu près 2018, tu vois, on est sur du 500 000 par mois, quoi, tu vois. Okay. C'est super, enfin, moi j'étais très content déjà. Mais on sait que voilà, on peut lever une année de chiffre d'affaires pour continuer à nous développer et aller à cette taille critique qui permet d'être complètement rentable. Et donc en 2018, on décide de lever et on prend une banque d'affaires qui s'appelle Cambon. Et il me dit, ouais, t'inquiète, on va lever en 6 mois, ça va être fait. Et donc, c'est la meilleure banque d'affaires. Attention, c'est le top du top et je vous conseille tous d'y aller. Mais je pense qu'il a sous-estimé en fait la casse qu'il y a eu depuis 2015. C'est-à-dire. Et évidemment, les VC, ils se sont dit, mais ouais, c'est super, la belle vie, machin, etc. Mais ça reste un site e-commerce et livre de course. Mais tu as vu tous les autres dans la food tech, ils sont morts. Donc là, tu peux leur expliquer que c'est pas la même chose, machin, etc. Mais les VC, c'est par définition des gens qui prennent pas de risque parce qu'ils investissent dans du sûr parce qu'ils gèrent l'argent des autres, quoi. Hein? Ils disent, attends, il y en a 20 qui sont morts là. Même Amazon, il ric-rac sur ce secteur-là. C'est mignon avec la belle vie. Paul, il est marrant. Voilà. Donc, du coup, il se retrouve face à ce genre de critique, tu vois. Et le levancement, on lève en 12 mois. J'ai vu plus de 100 fonds d'investissement. Il y en a un qui a fait une term sheet. Et je pense qu'il est très heureux aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais on a mis 12 mois. Donc, ça, on est fin 2019 déjà.
Et jusqu'à là, vous grossissez grâce à quoi? Tu parlais du bouche-oreille. Ça, c'est, aujourd'hui,
alors,
c'est votre...
Alors, on a grossi, évidemment, la première chose par le bouche-à-oreille.
Ouais.
Un bon produit, il parle. On a eu des pics de croissance un peu tous les ans. Et ces pics de croissance, c'était souvent en janvier. Mais qu'est-ce qui explique entre décembre et janvier la croissance? Nous, on n'a qu'une chose comme analyse, c'est qu'en décembre, les gens se retrouvent en famille.
Et ils parlent.
Et ils parlent. Tu vois, on ne peut pas l'expliquer autrement, en fait.
Ouais.
Tu vois, on n'a rien fait. Juste, on a perdu un peu parce que les gens se sont retrouvés en famille, mais tout de suite, ça explose en janvier, quoi. Le petit filon, ah vas-y, comment ça va, machin, à Noël, il m'a parlé.
Donc c'est un truc dont tu peux parler quand même assez facilement, comment tu fais livrer tes courses, c'est un gros comportement.
Ouais, tu vois. Et en plus, tu vois, comme dans un écosystème early adopter encore, les early adopters, ils aiment bien être early, quoi.
Ouais, c'est temps d'avoir découvert le truc.
Et moi, je fais encore tes courses là, au drive, moi je me fais livrer. Ouais, mais il n'y a pas tout, si, il y a tout, regarde. Ouais, tu vois, il y a eu beaucoup de ça, je pense, beaucoup de bouche à oreille. Évidemment, avec les réseaux sociaux, les blogs, etc., tu as du bouche-à-oreille naturel. Ça va arriver chez un influenceur, chez un blogueur, il te fait un article, machin, etc. Voilà, on a eu pas mal comme ça, de manière naturelle, en disant « Hey, j'ai un bon plan. » Voilà. Mais c'est les early. Ouais, ils ont aussi besoin de contenu un peu innovant pour leur contenu.
Okay. Hein, et donc, en parallèle
bon, bouche-à-oreille, ouais. Et en 2018, on a eu un peu d'argent. On a testé les réseaux sociaux, l'acquisition payante,
ouais.
AdWords, Facebook, Instagram, etc. On a vu que c'était explosif. Genre, tu mettais tac, comme ça, ouais. Oh là là, trop de commandes. Voilà, on n'a pas pu faire ça longtemps parce que, évidemment, on a dû continuer à investir dans les opérations. Mais on a eu des cohortes et des pics de commandes en parallèle de l'investissement marketing. Donc, ça rassurait aussi les nouveaux investisseurs qui allaient rentrer en disant « Hey, regarde, et quand j'ai de l'argent, ça
ouais, je l'utilise bien. »
Voilà.
Et du coup, je pense que la question que se pose peut-être un auditeur, c'est comment est-ce qu'avec une croissance donc bouche-à-oreille qui est très organique, que tu ne payes pas, tu peux te retrouver dans la sauce financière
Parce qu'en fait, nous, on a un gros métier d'ops.
Ouais, c'est les dépenses en opération.
Et bien sûr, parce que tu achètes tes produits, d'accord ? Qu'est-ce que tu en sais qu'il faut acheter 10 steaks ou 15 steaks ? Mais quand tu n'achètes pas cette steak, bah ton panier n'est pas validé. Il y a les ruptures. Donc, il faut toujours que tu en aies assez, tu vois, et jamais être en rupture. Parce qu'il y a des produits comme ça et c'est important. Plus, tu vois, tu as un gros, tu as beaucoup de people. D'accord ? Bah, quand tu ne sais pas bien les gérer, bah, le mec, au lieu de travailler 7 heures, il va travailler 6h15 parce qu'en fait, tu t'aperçois que entre des zones, il va aller faire du WhatsApp, appeler, tu vois. Mais en fait, ça a mis bout à bout.
Ouais.
Voilà. Tout le temps, toute la journée, sur les milliers de mouvements qu'on fait qui ne sont pas optimisés parce que l'étagère est trop loin et tout, etc. Ça fait un bas de page qui est dégueulasse. Et c'est ça le métier de la logistique. C'est vrai que la logistique, c'est hyper dur. Parce que si ce n'est pas bien cadré et que tu ne sais pas que chaque geste, c'est un peu de dépense, bah, à la fin, ton bas de page, il n'est pas bon, quoi. Donc nous, on est une boîte logistique avant tout. Logistique et tech. On a développé nos propres logiciels tech, logistiques depuis 2015. Tu vois, ce qu'on appelle le Warehouse Management System, le TMS, Transport Management System, l'OMS, Order Management System. Tout ça, on l'a pris sur le tas. On a développé nos propres systèmes, notre propre ERP. Notre ERP est là pour gérer la productivité de l'entreprise. Tout cadré. Okay? Mais quand tu n'as pas ça, tu fais comment? Je ne sais pas. Parce que tu sais pas, et en plus de ça, tu es quand même un business, petite marge. Toi, tu as une agence, tu es content. Tu vois? Mais moi, j'ai une petite marge. On ne peut pas être déconnant par rapport aux autres, tu vois? Si je mets des marges qui sont 5 fois plus grosses, évidemment, je vais être rentable. Mais je n'aurai pas de clients. Je suis beaucoup trop cher. D'accord? On ne peut pas faire ça. Voilà. C'est un business aussi que tu découvres. C'est un business qui est petite marge.
Ok. Sur la partie, je suis un peu curieux, sur la partie juste prévision des stocks aujourd'hui, le nombre de stocks là.
Ouais, mais là, on a nos propres algorithmes,
ouais.
D'accord, qui sont nos propres algorithmes et nos people, et on connaît le comportement de nos clients, et on arrive aujourd'hui avec nos tailles de boîte à prédire les pics de croissance. Donc, on arrive à gérer de manière très, très fine nos stocks. Et ça, okay. C'est un peu la magie de la belle vie, mais c'est 9 ans de travail.
D'accord, donc c'est fondé sur toutes les datas que vous avez de vos clients, et quand vous faites de l'acquisition de vos clients, vous savez ce qu'ils vont commander plus ou moins ?
Ouais, exactement, on sait déjà plus ou moins ce qu'ils vont commander, évidemment, qu'on va avoir, donc on prévoit les stocks aussi en face. Voilà. Et surtout qu'on a un grand assortiment, on peut avoir des ruptures sur des produits, mais tu vas avoir plein de produits équivalents.
Donc toi, en fait, dans ta structure économique, t'as un BFR, enfin, t'as un trou structurel qui fait que tu dois acheter les marchandises avant de les vendre.
Mais justement, on a un BFR négatif, ouais. C'est-à-dire que t'encaisses directement, mais tu payes tes fournisseurs à 45 jours.
D'accord, donc pas du tout, en fait, c'est même plutôt un avantage, ce truc.
Ouais, c'est un avantage, mais tu dois être bien aussi structuré au siège pour pas trop dépenser, d'accord ? Pour pas que cet effet de trésorerie plus, bah, il soit détérioré parce que t'as un siège de fou, quoi.
D'accord.
Okay, mais ça, c'est propre à tout le retail.
Ouais.
Tu t'appelles Carrefour, Monoprix, Casino, Auchan, etc. C'est la magie. Pourquoi ces boîtes-là, elles ont des trésors de guerre en cash ? Parce qu'elles appellent tous leurs fournisseurs à 40. C'est quelque chose qui est complètement market practice.
Okay. T'es pas du tout accessible à une boîte e-commerce qui se lance ?
Ben, ça dépend si elle gère son stock ou pas. Nous, on fait de l'achat-revente. Compare ça avec une marketplace, c'est un peu différent.
Je vois le truc.
Voilà. Mais il faut te dire que les opérations, elles doivent bien gérer. Tu vois, tu peux t'appeler aujourd'hui en Auchan, si ta structure de coût est trop grande, si tu as 80 000 collaborateurs au siège, ça va pas aller, quoi. C'est pas le cas, hein. Mais il faut faire attention à ça.
Donc, on s'était arrêté à 2018.
Oui, 2019, on a levé, ça y est.
Oui, 2019, ouais, là, c'est
vrai. Ouais, ouais.
Magnifique. Donc, Série A, 10 millions
parce que 6 millions, je crois.
6 millions, ok.
Ouais.
Là, ça vous lance sur une autre phase qui va vous amener quand même à relever aussi après, donc une série B.
Ouais.
Tu peux nous décrire ce qui s'est passé entre...
Bah, on lève en décembre 2019 et ouais. En mars 2020, il y a le Covid.
Ouais.
Là. Et comme par magie, ouais. Tu vois, dans les 3 mois où on a eu l'argent, on a décidé très rapidement de changer d'entrepôt pour encaisser la future charge. Okay. On pensait que cette charge-là allait mettre 12 mois, 18 mois à arriver. À l'arrivée, en 10 jours, quoi. En mars ouais. 2020, tac, comme ça, on a fait 400% de croissance en 15 jours. Voilà, 400 en 15 jours. Mais on aurait pu faire 4000% si on avait plus d'entrepôts. En vrai, on a une super croissance pendant le Covid, mais si on avait plus d'entrepôts, plus de machins, etc., on aurait pu avoir encore plus de croissance.
Ouais. Ça aurait été une mauvaise décision à l'époque, sans savoir que le Covid allait arriver.
On ne sait pas. En tout cas, je pense qu'on aurait pu aller plus vite.
Ouais, avec voilà. Le recul, quoi.
Mon associé, tu vois, il s'en mord encore les doigts. Je pense que lui, il se dit, mais on aurait pu aller à fond, tu vois.
Mais il y a un monde dans lequel vous ouvriez 10 fois plus de surface que ce que vous avez ouvert avant le Covid.
Ah, oui, on
aurait pu. Vous avez posé la question.
On aurait pu, ouais.
Okay.
Mais à un moment donné, le Covid en mars, c'est comme ça, avril là, et puis on commence à retrouver,
ouais, donc,
à être habitué au Covid. Donc là, tu vois, la puissance, la vélocité des premiers jours, tu vois, et puis la concurrence, elle, comme. À se mettre à peu près au diapason, tu vois. Voilà, on ne va plus attendre 3 heures pour faire ses courses, on va plutôt attendre 1 heure à l'hypermarché avec son masque, tu vois. À un moment donné, il y a une normalité qui commence à arriver, quoi.
Okay.
Voilà. Mais en tout cas, on a fait une super croissance en 2019. On passe de 2018, je crois qu'on était à 5,5-6. Et on finit 2019, on est à 24, comme ça.
Il y a des évolutions majeures qui se font sur le produit pur.
Plus de produits, et en termes de produits purs, en termes de tech, bah comme on a grossi très vite, on passe de 20 salariés à 300, tu vois, bah on développe tous nos logiciels de productivité en mode beast, mais c'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique aujourd'hui.
Okay. Hein.
Voilà, on est très très gros besogneux.
Okay. Les logiciels de productivité pour les personnes dans les entrepôts.
Ouais, gérer les entrepôts, gérer les stocks, gérer les livreurs, voilà, on a développé tout ça et on continue aujourd'hui à la fin, aujourd'hui encore, on envoie 4 à 5 mises à jour de l'ERP par jour.
Par jour ?
Ouais.
Okay.
Ouais.
Énorme. D'accord. Aujourd'hui, parce que donc là, y a, bon, je repars un peu sur l'actuel. Donc, il y a 700 personnes aujourd'hui qui travaillent pour La Belle Vie avec l'intégration de Frishti. Et sans compter les livreurs, ces personnes-là, c'est quoi l'équipe la plus conséquente ?
C'est les préparateurs de commandes.
Ouais. Et après, ouais, ouais, évidemment.
Ouais.
Et après, du coup, c'est votre équipe tech ?
Non, c'est... Ouais, ça doit être les techs.
Ok. Parce que je me demandais un peu comment c'était réparti.
Ouais, tech, finance aussi, tu vois.
Donc, on était sur cette phase qui vous porte donc le Covid. Comment est-ce que vous, d'ailleurs, vous prenez vos décisions stratégiques quand vous voyez le Covid qui vous explose la demande et vous dites, bon, ce truc-là, est-ce que ça va s'arrêter ?
Je comprends, mec.
Ah, donc vous avez fait court terme. Tu prends tout et tu ne te dis pas un jour ça va redescendre.
Non, tu prends tout de suite et après tu... Voilà, okay. Mais c'est ça. C'est ça, être entrepreneur. À un moment donné, est-ce que tu as besoin de faire 3 heures de réunion pour dire « Oh, il y a une opportunité ?» Et tu vois très bien ce qui est en train de se passer, quoi. Et ton travail, c'est quand même d'avoir le maximum des clients et les satisfaire. Là, tu as une opportunité où tu ouvres le robinet, les clients sont là. Voilà. « Oh, merci, on m'a livré une patate. » C'est incroyable.
D'accord. Et vous voilà. Avez, parce que typiquement, sur les entrepôts, si vous faites x10 sur votre taille,
Bah, il faut optimiser. Je ne dis pas qu'il faut faire x10 en termes de taille d'entrepôt, mais je dis qu'il faut tout continuer à optimiser. Et évidemment, parfois, il faut aussi pousser les murs.
Voilà. Ok. Vous n'avez pas pris de trucs, de décisions pendant le Covid que vous avez regretté quand ça s'est revenu à l'état normal
d'ailleurs? Non, la seule décision qu'on a regrettée pendant le Covid, je pense, c'est qu'on n'a pas appris à ses clients.
Ok. On n'a pas assez rien.
On ne pouvait pas. C'est trop dur.
D'accord. Donc on parlait du bouche-oreille, t'assimiles ça au parrainage pour toi, bouche-oreille, il y a le parrainage, tout le bouche-oreille se fait avec parrainage. Il fonctionne comment aujourd'hui le système de parrainage?
5 euros, 10 euros, ça dépend de l'agressivité qu'on veut mettre à certains moments.
Ok, vous avez testé pas mal de systèmes, c'est celui-là qui a gagné ou ça a toujours été?
Ça a toujours été celui-là.
Ok, d'accord.
C'est
source numéro 1 d'acquisition ça aujourd'hui pour vous?
Ouais.
Ok, devant le trafic payant?
Ouais. Ok. En longévité, tu vois.
Donc en de valeur.
Ouais.
Ok. Vous avez fait un peu d'influence aussi, tu me disais. Très peu.
Très peu. On a testé un peu comme tout le monde, mais très peu. Enfin, c'est pas notre truc, en fait. On n'est pas encore une boîte marketing. Et je dis, ça est en train de changer. Mais on n'est pas encore une boîte marketing. Quand je dis marketing, évidemment, on a un directeur d'acquisition et je pense qu'on n'est pas mauvais du tout en acquisition. Mais en termes de branding... Et quand je dis marketing, c'est acquisition plus branding. Il nous manquait toujours cet aspect branding. Mais en termes d'acquisition, on est plutôt. Alban, son à sa première boîte, c'est une boîte d'acquisition. C'est un peu le Théo Lyon de l'époque. Quoi.
Ouais, il avait fait quoi? Il a fait une agence?
Oui, bien sûr.
Ok, putain, je ne savais même pas. Ouais. Ça s'appelait comment?
Edencast.
Ok. D'accord, je garde Frichti pour la fin, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je le garde pour la fin parce que ça va être intéressant, je ne savais pas du coup, que ça vous avait apporté un peu aussi la vision branding marketing en plus.
Oui, il y a de ça, c'est, en termes de branding, Frichti c'est 10 fois plus connu que la belle vie.
Ouais.
Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est kiff-kiff. Beau.
Ok, donc vous avez toujours une croissance en fait qui a été drivée par le produit. C'est-à-dire vous, votre enjeu, c'est je dois compléter mon catalogue.
Mais bien sûr, c'est le catalogue en fait. Nous, on est épicier, c'est-à-dire qu'un épicier en fait, il a ses clients, il met un truc sur l'étal, ça doit se vendre. Mais tout le monde doit être épicier. D'accord? Toi, tu as une agence. Plus tu as de services, plus tu as découvert le nouveau algorithme Google, machin, etc. C'est ton produit que tu vas mettre sur ton étal et vendre à ton client.
Ouais.
Slide numéro 12. Là, regardez, je vais vous faire ça. Tu vois? C'est la même chose. C'est ton produit que les gens achètent. Mais ton produit, c'est quoi, toi, aujourd'hui? Tu vois, tu vas aller creuser Google mieux que les autres, tu vas creuser Insta mieux que les autres, tu vas avoir une cohérence sur ton marketing digital qui est un peu meilleur parce que tu as un point de vue qui est différent des autres. Tu vois, c'est ça ton produit, tu vois. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. C'est avoir les coca de toutes les saveurs. Okay. Pas que ça, évidemment. Mais tu vois, toutes les boîtes, toutes les entreprises, c'est le produit. Que ce soit un menuisier, on en parlait tout à l'heure, un chauffagiste, tu vois. C'est le produit, tu vois. C'est le produit. Le produit est bon, il parle. Voilà.
Ça vous amène à une série B, tout ça?
Ça amène à une série B en 2021. Juin 2021. Okay. Voilà.
C'est quand même 25 millions.
Ouais. Mais à l'époque, c'est quand même 25 millions, mais on est la plus petite levée.
C'était là où c'était fou, c'est l'environnement.
Ah, mais nous, on avait un mois de burn de ces mecs-là. C'est vrai, c'est sûr.
Ben oui, parce que c'était dans l'environnement où il a commencé à avoir
la
ruée.
Nous, dis-toi un truc, on lève en juin 2021, on annonce notre levée la semaine de Noël. Tu sais pourquoi? Parce qu'on était étouffés par toutes les levées de fonds, toutes les semaines de 50, 100, 200, 300, 400, 500. On était là, on fait, mais en fait, tu t'annonces 25 millions d'euros, tu fais pitié. Tu vois. Il y a eu un jour où, je crois que c'est Conto, puis Back Market, et celle-ci, tu vois. Celle-ci lève 50 millions d'euros, et les autres, ils lèvent 400 millions, 500 millions en faisant les plus grosses licornes.
Je n'ose même pas dire son truc.
Celle-ci, on l'a oublié, tu vois. On l'a oublié. Et pourtant, c'est un super SaaS, c'est un super produit. 50 millions dans ce secteur-là, c'est exceptionnel. Mais ce jour-là, il est en face de mecs qui annoncent 400 millions, 500 millions, valo 5 milliards, machin, etc. Le pauvre. Tu vois, genre, putain, ça doit être exceptionnel de dire « Ouais, j'ai levé 50 plaques, quoi, tu vois ?»
Ouais, on attend de s'oublier cette période-là.
Et lui, il est encore là, tu vois. Lui est encore là et je pense qu'il est en bonne santé.
Mais moi, je suis trop curieux de savoir comment quand vous voyez ces grosses levées, vous levez 25 millions, vous êtes content quand même
en mode on est content. Mais en fait, on est pragmatique. On se dit bah, « C'est ce qu'il nous faut, en fait.
Ouais.
C'est ce qu'il nous faut. » Et je pense qu'avoir, si on avait levé peut-être 200 millions, ça ne nous aurait pas rendu service. Ouais.
Et vous n'êtes pas dit, putain, on va mourir, mais t'es mal tous ces géants-là qui sont convaincus de A à Z, ils font de la merde,
non,
on est sûr.
Je te jure, jamais on s'est dit on allait mourir. même en 2017 où on devait mourir, tous les jours je me levais, je dis je meurs pas. Je te jure, ouais. C'est vrai. Tous les jours avec mon associé, on meurt pas. En fait, nous, on meurt pas. On meurt pas. Tu peux envoyer la bombe nucléaire de 4 milliards, on l'esquive. Je te jure, on va pas mourir. On meurt pas, en fait. C'est-à-dire que on meurt pas. On meurt pas. 99% de mon patrimoine personnel, c'est mes actions La Belle Vie. Mmh. Voilà. Quand je dis ça, je dis je fais ça pour ma famille, mes enfants, ma mère, mes sœurs. Voilà. C'est tout. Je suis complète. Tu sais, s'il y a un conseiller en gestion de patrimoine qui coûte ça, il va m'appeler, il va faire t'inquiète. Mmh. Non, non, frère, écoute-moi. Skin in the game. Voilà. Skin in the game, et crois-moi que tu vois, on peut y aller. Tu peux annoncer les 4 milliards, les machins. T'inquiète. Ça, en vrai, ça m'excite de ouf. Quand tu le vois, tu vois. Genre, il va dire, mais il est fou. Lui.
Ils sont venus vous voir, en plus, ces gros acteurs?
Non, non, entre boulard.
Même pas vous.
Non, 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 je pense pas. Non, ils sont. Si, on est nous voir. En France, les GM, moi, je suis un peu médisant et c'est pas cool parce que j'aime bien ces mecs-là. J'ai beaucoup de respect, en vrai, c'était super dur. En vrai, c'est aussi super dur de gérer beaucoup d'argent. C'est con à dire, mais c'est dur, tu vois. Et ouais, on a vu quelques-uns. Mais voilà, enfin. En tout cas, on n'a jamais vu les grands patrons des entrepreneurs, tu vois. Les grands patrons de ces boîtes-là. On a toujours vu leur GM.
En parallèle, vous avez aussi l'arrivée des gros acteurs historiques, donc des Carrefour, Auchan, etc.
Bien sûr. Comment ça fait, ouais, bien sûr. Ils qui essayent depuis quelques années. En 2017, ouais. Ils ont essayé. Hein. À un moment donné, c'est discount via Franprix, livre en une heure, puis Franprix, livre en une heure. Ouais. Bio, c'est bon. Voilà, on les a oubliés. Bio, c'est bon. Ouais. Hein, tu vois.
Aujourd'hui, ça en est où, ça? T'as quel regard dessus?
Non, en fait, ils sont dans le fond, pas maîtrise. Ils n'ont pas pris la mesure de l'importance de la logistique, du logiciel logistique. Ils n'ont pas pris celle-là. Voilà. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est un gadget de CDO. Malheureux, ça me rend triste parce qu'on devrait, on devrait être un pays où on investit à fond dans le digital et puis, tu vois, on crée des nouvelles choses, des nouveaux services. Mais aujourd'hui, le digital, dans ces grandes boîtes-là, elles ont leurs problèmes actuels et c'est un peu laissé de côté.
Il y a tellement des petites parts, en fait, du CA par rapport à tout ce qui brasse à côté.
Enfin, tu vois, est-ce que 100 millions d'euros en livraison à domicile, c'est beaucoup pour eux par rapport à un hypermarché qui fait ça de manière mathématique, ouais, tous les ans, quoi, tu vois. Et leur métier, c'est ça. Mais peut-être que le digital, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, la livraison à domicile de course, il n'y a aucun player qui a réussi à l'imposer en disant c'est comme ça et c'est en train de prendre 30% du marché, quoi.
Ok. Il n'y a pas eu des tentatives de rachat par ces...
C'est arrivé, mais en fait, nous...
Toi, c'est un truc qui ne t'intéresse pas, d'ailleurs. Pourquoi pas?
Et en fait, ce qui est intéressant pour l'associé et moi, c'est l'histoire. L'histoire. On est des entrepreneurs, on veut kiffer, quoi. Tu vois.
Une belle histoire, quand même, de se faire acheter par Auchan.
Ouais, tu fais quoi derrière? Ouais, tu vois, j'ai plus l'âge, j'ai pas ton âge. Moi, je veux pas lancer de boîte, je suis trop fatigué, mec. L'intensité des débuts d'une boîte, enfin, t'as pas aidé, hein. Tu travailles 7 sur 7, 5 heures, 23 heures, tu perds des amis, tu perds ta femme, tu perds tout, mec. J'étais pas prêt à faire ça. Aujourd'hui, je suis pas prêt à part ma femme et mes enfants. Je dois être là pour eux.
Donc, c'est. Ouais. Ouais, ça me semblait. Parce que je me disais, la seule idée, moi, qui me ferait arrêter de faire ce que je fais, c'est d'avoir envie de faire quelque chose encore plus que ça.
Ouais, bien sûr.
C'est la même chose.
Mais il n'y a rien de plus. Avoir une boîte, une start-up consumer en tant qu'entrepreneur, hyper rarissime.
Ouais. C'est vrai que c'est la Champions League, quand même.
C'est la Champions League, mec. C'est la Champions League des start-up. Voilà. Ouais. Bien sûr. Et arriver au stade des 100 millions. Là où on est en train d'arriver, on va les faire l'année prochaine.
Il y a d'autres boîtes en food que tu trouves cool. Parce qu'on parlait avant, on parlait
ouais,
de Denis, on en reparlera.
J'aime bien La Fourche, ouais, et j'aime bien ce qu'ils font. Ouais. Je respecte beaucoup ces mecs-là. J'aimais beaucoup Frishti.
Ouais.
Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Tu vois. Quentin, Julia, je trouve que c'est des super entrepreneurs. Frishti, tu vois. En food. Happyvore,
ouais.
Happyvore, tu vois, de Play, voilà, il crée une usine, c'est le seul à avoir un asset d'usine aujourd'hui, tu vois, c'est pas une DNVB qui produit chez quelqu'un, quoi, il a son usine, un peu comme nous, tu vois, il va gérer tous les stacks, donc ça, je respecte beaucoup ça, voilà.
On pourra parler de Frishti, c'est le moment.
Vas-y.
Tu peux raconter un peu comment ça s'est passé, le début des discussions jusqu'à il y a quelques semaines où vous avez annoncé?
Au mois de mai, Gorillaz est annoncé en redressement judiciaire. Avril-mai,
ouais.
Ensuite Getir, et mécaniquement Frishti, puisque c'est Getir qui a à Gorillaz et Frishti. Et là, c'est mon associé qui me dit on saute sur l'occasion. Nous, on était en train d'atteindre la rentabilité. C'est-à-dire, après 9 ans, on est les premiers acteurs opérants de la Food Tech Delivery Same Day à atteindre la rentabilité. Mes jours. Là, si tu fais une acquisition, ça te remet dans la sauce. Là, tu te dis mais c'est ce que j'aime chez lui. C'est pour ça qu'on est un bon couple, tu vois. On est complémentaires à fond.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le dossier, Frishti?
Mais Frishti, c'est Frishti. Je t'ai dit il y a 2 minutes que j'ai respecté énormément Frishti, tu vois, comme Food Tech. C'est vrai, on l'a toujours respecté. Ça a été les leaders, même avec le e-commerce, hein, ça a été les leaders. Ils ont créé une super brand. Les gens aiment Frishti, mais vraiment aiment Frishti. Voilà. Franchement, c'est normal qu'on fasse. Ils ont mis un gros accent sur le marketing, le awareness, le branding, là où on l'a pas fait. Nous, on a plutôt été logistique.
Oui.
Donc, tu vois, quand tu colles les trucs comme ça, fusionne les deux, tu te dis, ça marche. Il n'y a pas trop d'overlap.
Oui.
Voilà. Et donc, du coup, mon associé me dit, vas-y, on y va. Et il s'est battu. Voilà.
Comment ça se passe, du coup, là, quand tu... Parce que c'est une reprise, donc ça veut dire que c'est pas toi qui décide.
Pas toi qui décide, c'est l'administrateur judiciaire. Ouais. Donc, du coup, il faut présenter un dossier au juge.
Ouais.
D'accord. Une première fois et une deuxième fois. La première fois, c'est pour voir s'il y a des candidats et candidats sérieux. Donc, on fait un premier travail qui dure jusqu'à mi-juillet. OK. On essaie de faire l'offre la plus sérieuse possible. Okay. Et le tribunal va regarder deux choses. Si la boîte est solide, okay, il fallait quand même montrer qu'on avait atteint la rentabilité. Ils ont eu l'intelligence de comprendre ça, même si ça venait juste d'être fait.
Mmh.
Ensuite, la crédibilité du dossier. Bah, tu vois, nous, on reprend Frishti, c'est naturel. C'est nos cousins, Frishti, tu vois. Mmh. C'est faire. Voilà. Et un autre, c'est pas sûr. Et troisièmement, c'est le premier, le nombre d'emplois que tu sauvegardes. Et chez Frishti, et comme chez La Belle Vie, il y a plusieurs activités. Tu as l'activité cuisine, donc la production de plats, et la production aussi d'entrepôts, où tu reçois les marchandises et tu les prépares et tu les envoies chez le client. C'est la même chose chez La Belle Vie. Okay. Et donc nous, on est capable d'absorber une nouvelle cuisine et des préparateurs de commandes. Donc on fait une offre d'emploi qui sauvegarde quasiment 50% des salariés. Et c'était la meilleure en termes d'offre d'emploi par rapport à la concurrence. Donc on passe déjà cette étape-là en juillet. Et là, il faut attendre l'audience. Et l'audience devait avoir lieu en août, mais elle a été décalée en septembre, d'accord? Parce que probablement que l'administrateur judiciaire ou d'autres ont voulu voir si les autres offres, les concurrents pouvaient se bonifier. Peut-être aussi que c'était le mois d'août qui voulait partir en vacances. Peut-être. Voilà. Et ils sont arrivés. On est arrivé au mois de septembre et il fallait pitcher au tribunal. Chacun son tour avec les différents concurrents. Et là, mon pitch, tout le monde se réunit et les juges et les différents acteurs sociaux décident de quelle offre est la plus intéressante. Il peut qu'il y en ait zéro aussi. Et là, tu as le résultat 10 jours après. Mais quand tu as le résultat 10 jours après, quelques heures après, tu as les clés du camion, quoi. Donc là...
C'est ça, donc c'est à toi, débrouille-toi.
Ah ouais. On est encore là un peu pour toi, mais en vrai, pas trop. Quoi. Ouais. Et là, c'est pour ça que, tu vois, on a dû décaler notre rendez-vous. On a le truc le 27 septembre. Tu sais qu'on va l'avoir parce qu'on a le meilleur dossier, tu vois. T'es sûr à 95%. Mmh. Donc, on prépare. C'est fait. Sorte 200 personnes, des milliers de commandes, une nouvelle équipe. On est encore dedans aujourd'hui.
Et donc, après, une fois que le juridique est passé, ça se passe comment l'intégration d'une boîte comme ça? Vous connaissiez les équipes avant? Vous avez
rencontré... On a rencontré quelques personnes, entre guillemets, clés, mais tout le monde est clé quand même dans cette équipe-là. Et on aujourd'hui encore, en train d'intégrer les équipes, tu vois. Il faut aller les voir, il faut leur donner un peu de vision, il faut passer ta tech. Tu vois, c'est quand même 2 boîtes tech. Quelle tech est meilleure? Tu ne peux pas gérer 2 stacks, tu vois. T'as un CTO, c'est pas possible, tu vois. Quelle tech est meilleure? Il faut faire l'audit d'une, voilà, pour voir si c'est les meilleures. pour voir tous les contrats, pour voir s'il n'y a pas d'avantageux et d'autres désavantageux. Voilà. Donc, c'est un travail de fourmi tous les jours de chef d'entreprise. Voilà.
Donc là, ça, on est où là? T'es encore au tout début de...
Au tout début, ça fait 40 jours qu'on l'a. Ouais. On est encore en train de fusionner des services comme la tech, les opérations, voir aussi convaincre les gens aussi de qu'on a le meilleur projet. On a repris des gens qui ont eu... nous, on est le troisième propriétaire de Frishti en 2 ans. Quoi. Et Gorillaz, Pigitier, c'est des gens qui sont marqués. Quoi.
Ah ouais.
Voilà. Donc, je peux comprendre que parfois, ils ont marre des fausses promesses. Voilà. Moi, si tu fais une promesse, ils vont dire, on me l'a déjà dit 10 fois. Voilà, faut me voir, s'il te plaît. Donc, on est en plein dedans. Tu vois, je peux pas te dire que c'est un succès. Je peux pas te dire que c'est un fail. On est en plein dedans, c'est du travail en cours. Bon, voilà, et ça s'est passé comme n'importe quelle boîte qui a été reprise à la barre du tribunal, avec du travail en amont et que tu ne pouvais pas faire parce qu'il y a de la concurrence et parce qu'il y a aussi l'été, quoi.
Et quelles sont les synergies concrètes, en fait, que ça apporte avec la Belle Vie? Parce que l'activité de Frishti, c'est de la livraison de plats.
Ouais, des plats, des courses.
Ouais, et des courses.
En 2020, pendant le Covid, ils sont aussi mis à livrer des courses. Ouais. Donc, il y a 50% de plats, 50% de courses. Okay. Où nous, les plats, ça représente 8%. D'accord. Mais on a aussi notre cuisine et on fait de la préparation de plats. D'accord.
Ok.
Que tu vas tester demain, puisqu'on livre Versailles. Faut jamais oublier de vendre.
Always be closing.
C'est vrai. Et en termes de vertical opérationnel, ils ont une cuisine, on a une cuisine, mais ils ont un savoir-faire de plats beaucoup plus poussé. Nous, on a 40 de plats, ils en ont 400, quoi. D'accord. Et la cuisine Frishti, les gens adorent. Mais en termes de produits d'épicerie, ils en ont 2000, on en a 25 000. On a un hypermarché. Okay. Ils ont aussi ce qu'on appelle les cafettes. C'est des cafétéria entreprise, tu vois, en bas des immeubles, tu vois, tu rentres dans le hall, tu prends un petit café, voilà. Dans ce business-là, où tu peux aussi manger le midi, qui marche bien. Ils ont ce qu'on appelle les cantines de zéro, donc livraison de plats aux entreprises, ok. Donc en fait, ils nous apportent une cantine de zéro, ils nous amènent une cafétéria, d'accord, deux nouvelles verticales, où en vrai, on peut écouler bah, les plats préparés de la Belle Vie, mais aussi de Frishti, et vendre des produits la Belle Vie dans une cafétéria et aussi peut-être aux entreprises qui ont une cantine. D'accord. Ils ont. Nous, on a une force dans le B2C. On sait livrer les courses de manière rentable. Donc, on récupère le B2C, on le met dans notre canal de distribution. D'accord. Et dans les canaux de distribution et logistique qui sont rentables. D'accord. Donc, nous, on apporte de la rentabilité et plus de produits à Frishti en B2C. Eux nous apportent une grande carte de plats préparés, d'accord, et des clients en cantine de zéro et en cafétéria. Tu vois, il n'y a pas trop d'overlap. Et aujourd'hui, on a un groupe. Donc, aujourd'hui, au-dessus de la Belle Vie et Frishti, le groupe s'appelle Delive. C'est ce qu'il y a sur le Cabis. On a Frishti. On a la Belle Vie. On a aussi depuis peu, ça a été annoncé en septembre, on est l'entreprise qui gère la tech et la logistique pour la grande épicerie de Paris. D'accord, donc c'est une nouvelle verticale. Grâce à Frishti, deux nouvelles verticales de savoir-faire. La cantine de zéro, d'accord, livraison de plats en entreprise le midi, une cantine dans les nuages, in the cloud. La cafétéria, d'accord, le petit Starbucks que tu as en bas de l'immeuble. Voilà. Maintenant, il y en a 14, c'est Frishti. Okay. Et tu as 3 grandes enseignes et 4 savoir-faire. Donc, Delive aujourd'hui est un groupe logistique et tech, et on met notre logistique et tech au service de nos clients via différents canaux de distribution, que ce soit des marques ou des savoir-faire.
Ok. Donc, ça veut dire que l'activité économiquement de Frishti était économiquement, enfin, elle était saine? Parce que qu'est-ce qui a emmené en fait Frishti de base vers.
A été saine sur certaines verticales.
Ouais.
D'accord. Une boîte qui n'est pas gérée, d'accord, mets au défi, voilà, de donner les clés à ta boîte, à un manager qui regarde pas trop ton compte en banque. Je vais avoir la tête que ça un an après, quoi. C'est ce qui s'est passé sur le Frichti.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'avant, les gorillas ont failli...
Le modèle économique, déjà. Le modèle économique.
Mais en fait, le modèle de Frichti, le modèle économique de gorillas...
Ouais.
Le Frichti, comment est-ce qu'il devient sain en étant chez vous? Il ne l'est pas avant.
Bah déjà, en termes de livraison, le temps de timing de livraison, on ne livre plus en 20 minutes. Okay. On livre plutôt en 1 heure ou 2 heures. La rapidité engendre aussi beaucoup de coûts. Tu vois, on est passé de 15 hubs à 2 hubs. Déjà, tu payes 13 loyers en moins. Okay. Ensuite, sur différents layers logistiques, nous, on avait des trucs en interne. Eux, ils avaient des trucs externalisés, on a coupé les externes, on a passé le truc. Parce que tu as des meilleures marges. Donc ça, sur différents, sur 1000 choses, d'accord, qu'on est en train de faire, petit à petit, on va gagner un peu de marge chaque jour.
Okay.
Notre travail aujourd'hui avec mon associé, c'est chercher une expérience client top et des marges tous les jours. Voilà.
Ok. Et il y a de la mutualisation au niveau des, par exemple, une équipe acquisition du groupe Deliv. Est-ce qu'elle travaille sur Frichti?
Quand tu prends, elle travaille sur les deux, okay. Évidemment. Il y a une mutualisation sur différents services. Quand tu prends une entreprise au tribunal, tu essayes de ne pas faire d'overlap. Donc, l'équipe, il y a des équipes qu'on n'a pas reprises, ouais. Parce qu'on les avait déjà. Voilà.
Tout sur l'acquisition, c'est un truc où avoir du doublon, ça sert vraiment.
Ouais. Pas de... C'est normal que tu en parles.
Ouais.
Au métier.
Ok. Écoute, je crois que ça fait plus longtemps que je n'ai même pas regardé le chrono, mais ça fait quelques temps qu'on parle. Merci beaucoup, Paul. Je vais te poser la toute dernière question.
Vas-y, avec plaisir.
Est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont tu admires les stratégies de croissance? Je t'ai volé sur la food, mais là, je te pose au sens
large. Ouais. J'aime beaucoup With The New.
Ouais.
Ouais.
J'ai reçu ici.
Très cool. On attend tous son code promo.
Qu'est-ce que tu aimes bien chez eux en particulier?
Mais j'adore les fondateurs déjà.
Ouais.
Ça, j'adore les fondateurs. Ils sont cool, etc. J'aime beaucoup les sneakers, le monde. Le monde de la street, voilà, ça me parle beaucoup. Enfin voilà, j'aime le produit, j'aime les mecs. C'est la seule start-up que tous mes préparateurs de commandes et tous mes neveux et nièces connaissent, tu vois. Tout le monde connaît With The New. Ouais, trop de respect, quoi. c'est beau, quoi. Et la révolutionnaire a marché, quoi. Voilà. Donc, ouais, With The New, c'est fat.
Bien, nous embrassons David et Mickaël.
Voilà.
Eh bien, écoute, on va pouvoir s'arrêter là, Paul. Merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, c'est
merci à toi pour l'invitation.
D'être rendu là. Une heure aller, une heure retour. Donc, ça va droit au cœur.
Une bonne commande demain, la belle vie, Frichti.
T'inquiète pas, je suis déjà client Frichti. Régulier.
Ouais, c'est bien, c'est bien.
Écoute, merci beaucoup.
Il est au Versailles maintenant.
Ouais, mais je suis pas souvent à Versailles, c'est juste pour les tournages. Mais
okay,
on commandera ça lui.
Très bien.
Merci. Salut à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode des Brut e-commerce. J'espère que vous l'avez apprécié, celui-là. Fin du tout.